France Culture.
Les midis, deuxième partie, c'est par ici. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure à 13h, Mathieu Bogart sera mon invité pour fêter ses 30 ans de carrière et la sortie de son nouvel album. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Vous n'avez pas pu passer à côté. Saint Laurent, Dior, Chanel, les marques de mode apparaissent partout dans le monde culturel. Au générique des films comme sur les façades des musées, ce soft power dépasse les enjeux financiers, pourtant importants qu'il investit, car il s'agit ici d'influence stratégique et de légitimité. Alors comment le luxe s'unit à la culture pour se refaire une beauté? C'est le dossier du Point Culture du jour. Sophie Abria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de la mode, vous faites paraître aux éditions Grasset un essai qui s'appelle « Danser sur le volcan, la mode et le luxe à la conquête de nos imaginaires », dans lequel vous enquêtez sur la sphère d'influence des maisons de mode et de luxe, et notamment dans la sphère culturelle, et vous constatez que la mode est désormais partout, alors qu'elle a longtemps été considérée comme illégitime, en tout cas du côté des acteurs culturels. Est-ce que ceci explique cela ?
C'est vrai que ces dernières années, un long chemin a été parcouru en matière de reconnaissance de cette légitimité académique de la mode. Aujourd'hui, la mode est considérée comme faisant partie du monde des idées, bien qu'il reste quelques résistances. Cela a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'années pour arriver à cet état-là. Je discutais la semaine dernière avec Florence Muller, qui est une grande commissaire d'exposition spécialisée dans la mode, qui me rappelait qu'il y a 20 ans, exposer la mode dans un musée était absolument impensable, puisque cela venait dégrader la sacralité des lieux. Je pense qu'il faut souligner le travail d'experts, d'historiens, de philosophes, de commissaires d'exposition qui ont beaucoup œuvré à cette reconnaissance de la mode comme objet d'analyse. Parce que pendant longtemps, on l'a restreint au champ de l'économie et c'était un simple bien marchand. Or, c'est un vrai langage, la mode. Elle manifeste du sens. Donc, c'est vrai que tout cela, vous avez raison, il y a eu un mouvement parallèle entre cette reconnaissance académique du monde de la mode et son développement dans des sphères d'influence qui sont très éloignés a priori du prêt-à-porter et des accessoires.
Mais ça veut dire que pour ces marques de mode et de luxe, la culture représente un terrain plus respectable ?
C'est une bonne question. C'est vrai que pour les maisons de mode, se rapprocher du monde de l'art et du monde de la culture, ça permet de rehausser leur prestige culturel, leur prestige artistique. Et ensuite, il faut comprendre que la mode elle-même est un système qui se nourrit de transversalité et ses sources d'inspiration sont multiples. Elles s'hybrident au contact d'autres champs créatifs. Mais il est vrai que pour la mode, se rapprocher de l'art et de la culture, ça permet in fine de rehausser le prestige de ses produits et de s'éloigner d'une vision purement consumériste des choses. Donc c'est assez bénéfique quant à leur image notamment.
Alors peut-être prenons un exemple concret. Dans le cinéma, par exemple, on a eu récemment plusieurs fois l'occasion de constater que la maison Saint-Laurent était très présente et pas seulement dans les costumes et dans la façon d'habiller les personnages du film. Quel est le calcul stratégique de la maison Saint-Laurent pour financer comme ça le cinéma et est-ce qu'on a du recul sur l'efficacité de cette présence ?
Alors c'est vrai que il y a à peine 2 ans, la maison Saint-Laurent s'est dotée de sa propre société de production, baptisée Saint-Laurent Productions, et qu'elle est très active dans le monde du cinéma. On en a beaucoup entendu parler récemment parce que la maison Saint-Laurent est coproductrice du film Emilia Pérez, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques jours, puisque le film a eu de nombreuses récompenses aux Golden Globes. La maison Saint-Laurent va jouer le rôle de coproduction, donc ça reste du mécénat, ça reste une activité de mécénat, mais les retombées en termes d'image sont extrêmement fortes. Évidemment, puisque ne serait-ce que lorsqu'on regarde le film, le nom de la maison apparaît de manière très forte au générique. Donc, il faut effectivement être capable de mesurer ces retombées-là. Mais on sait déjà qu'on prononce le nom Saint-Laurent à travers le monde quand on parle du film. Donc, naturellement, cela génère des bénéfices d'image.
Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle le placement de produit ? Est-ce que c'est la même chose ?
Non, c'est différent. Le placement produit, c'est plutôt la manière traditionnelle de faire du marketing en apposant des logos dans des films ou en apposant des accessoires dans des films. Là, c'est totalement différent. La position de Saint-Laurent, ça transcrit et ça explique l'évolution des marques de mode en plateforme de divertissement. Elles sont elles-mêmes, si vous voulez, actrices du monde de la culture. Elles ne se contentent pas de mettre des produits dans des films. Elles ont un rôle davantage moteur, vraiment.
Oui, donc presque un rôle de création.
Tout à fait.
On a appris aussi en novembre, je change de secteur culturel, mais le renouvellement du partenariat de Louis Vuitton avec le musée d'Orsay, qui soutient à hauteur de 20 millions d'euros. Est-ce que les musées, c'est aussi une cible privilégiée des marques aujourd'hui ?
Absolument, le mécénat des groupes de luxe a pris une place très importante dans les musées. Ça s'explique notamment par des réalités économiques. Les coûts d'organisation des grandes expositions aujourd'hui et le financement de l'acquisition des œuvres, et cela est de plus en plus difficile à supporter par les institutions publiques. Donc le luxe, de par son capital financier, vient naturellement en aide à l'État en investissant dans la conservation et l'enrichissement des fonds muséaux. Pour donner un exemple, le budget d'acquisition du musée d'Orsay plafonne à 3 millions d'euros. En janvier 2023, lorsque le tableau de Caillebotte, la partie de bateau a été mise en vente, le montant était de 43 millions d'euros et l'œuvre a été acquise grâce au mécénat de LVMH. Donc c'est vrai que cette réalité économique explique déjà pas mal de choses.
Mais alors diriez-vous, si on prend un peu de hauteur par rapport à tous ces exemples, que grâce à toutes ces influences culturelles, il n'est plus nécessaire d'être client du luxe pour en consommer ? Est-ce que nous, spectateurs, visiteurs de musées, finalement, on consomme du luxe sans le savoir ?
Ouais, je pense quelque part tout à fait, parce qu'en fait, les marques, au-delà du fait de s'être transformées en plateforme de divertissement, sont aussi des nouveaux médias et qui communiquent à la manière de médias, de par les images qu'elles diffusent. Vous savez, il suffit de faire un tour, de se promener à Paris pour voir les publicités géantes qui s'affichent sur les bâches recouvrant les échafaudages installés sur les monuments historiques, comme l'Opéra Garnier ou encore le Louvre. Mais elles ne diffusent pas seulement des images, elles diffusent aussi aujourd'hui des discours. Donc en cela, effectivement, elles permettent de toucher les imaginaires, même des non-consommateurs du luxe, et parfois sans que l'on s'en rende compte.
Est-ce qu'il y a des effets potentiellement négatifs de ces mariages-là ? Est-ce qu'il y a une influence sur le choix des sujets, sur l'achat des œuvres, sur les plans des films à partir du moment où c'est une marque de luxe, de mode qui aide au financement ?
Déjà, le mécénat, c'est un choix. Ce sont les marques qui décident dans quel territoire elles investissent, quels artistes elles soutiennent, quels films elles soutiennent. Donc, c'est des choix qui sont extrêmement ciblés et qui sont bien sûr réalisés en fonction de l'image et de la communication des marques. Donc, en cela, c'est un mécénat qui est très ciblé. Cela n'a rien d'étonnant que les marques financent l'acquisition d'œuvres dans des musées ou qu'elles participent à la rénovation du patrimoine, puisque ces valeurs font écho à celles du monde de l'art et du monde de la culture, à savoir l'excellence, le patrimoine. Ensuite, il faut savoir que les directeurs artistiques des maisons influencent aussi les choix culturels de ces maisons.
Par exemple ?
Effectivement, chaque créateur a ses affinités électives. Si vous voulez, Prada, Mucha Prada, la directrice de Prada, est très proche du design. Jonathan Anderson chez Loewe est très proche de l'art contemporain et de l'artisanat. Une jeune créatrice comme Grace Wolfsbohner sera très attachée à défendre des valeurs de diversité et d'hybridité dans sa mode. Donc chaque profil de créateur influence sur ses choix en termes de mécénat. Et ensuite, quand les directeurs artistiques partent des maisons, évidemment, certains choix évoluent et certains artistes ne sont peut-être plus soutenus de la même façon.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Sophia Briat.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on connaît désormais le pays qui sera à l'honneur du prochain Festival du Livre de Paris.
Oui, après le Québec en 2024, c'est au tour du Maroc d'être l'invité de cette édition qui se déroulera du 11 au 13 avril sous la verrière du Grand Palais. Le Royaume du Maroc, qui avait déjà été mis à l'honneur en 2017, compte en effet 150 maisons d'édition et publie environ 3000 titres par an.
En Allemagne, la chaîne de télévision publique Das Erste, secouée par une polémique.
Diffusée depuis 1967, l'émission TTT est le programme de référence en matière de culture outre-Rhin. Elle a annoncé en décembre l'arrivée d'un co-animateur, le journaliste Thilo Mischke. Alors à la suite de cette nomination, une centaine d'artistes ont écrit une lettre ouverte aux dirigeants de la télé publique allemande, leur demandant de revenir sur leur décision. En cause, les nombreux propos misogynes tenus par le journaliste, notamment dans son livre « Le tour du monde en 80 femmes », publié en 2010. Devant ces pressions du monde de la culture, la chaîne a décidé de laisser l'actuelle présentatrice, Siamel Mamouni, tenir seule les rênes de l'émission.
Et pour finir, Marie-Pierre Boulez aurait eu 100 ans en 2025.
Et pour célébrer cet anniversaire, le ministère de la Culture vient de lancer l'année Pierre Boulez 2025. Une centaine de concerts seront ainsi donnés en France et à l'étranger pour rendre hommage au répertoire avant-gardiste et radical du compositeur, mais aussi pour mettre en lumière le travail de compositeurs contemporains qui s'inscrivent dans son héritage. En parallèle, une grande exposition ouvrira ses portes le 17 mars prochain à la Philharmonie de Paris pour retracer la vie et l'œuvre de Boulez. Le programme complet est bien sûr à retrouver sur la page du Point Culture.
Merci beaucoup Marie, on se retrouve demain pour d'autres infos culturelles et en attendant, il est 13h et vous écoutez les Midis de Culture.